Chapitre 41. Il dormit profondément toute la nuit et ne s'ébroua qu'en entendant le facteur faire sa ronde matinale. Épuisé, apathique, il parcourut son courrier sans espoir. Une mince enveloppe, d'un magazine mauvais payeur, contenait un chèque de 22 $. Il réclamait cet argent depuis 1 an et demi, et pourtant la chose le laissa froid. Il était loin le temps où l'arrivée d'un chèque l'exaltait. À la différence des précédents, celui-ci ne contenait plus de grandes promesses. Ce n'était que de l'argent, 22 $ qui lui permettraient de se remplir l'estomac. Il y avait un second chèque dans le même courrier, adressé par un hebdomadaire new-yorkais en règlement de quelques vers de mirliton, publié depuis de longs mois déjà, 10 $. Une idée lui vint. Il y réfléchit posément. Il n'avait aucun projet immédiat. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se laisser vivre. Mais il croulait sous les dettes. Alors, pourquoi ne pas investir dans le timbrage et remettre en circulation les manuscrits qui s'empilaient sous la table? Ce serait peut-être payant. Quelques-uns pourraient être acceptés. Sa décision prise, après avoir endossé ses chèques dans sa banque d'Oakland, il acheta pour 10 $ de timbres. La perspective de rentrer dans sa chambre étouffante pour se préparer un breakfast le rebuta. Pour la première fois, il refusa de considérer ses dettes. Il savait que, avec 15 ou 20 cents, il avait de quoi se confectionner une collation substantielle, mais il préféra aller au Forum Café, où il commanda un breakfast à 2 $. Il laissa 25 cents de pourboire et en dépensa 50 de plus pour acheter un paquet de cigarettes égyptiennes. C'était la première fois qu'il fumait depuis que Ruth lui avait demandé de cesser. Il n'avait plus de raison de se priver désormais, et il avait une forte envie de tabac. Au diable les économies. Avec 5 cents seulement, il eût pu acheter assez de dorame et de papier brun pour rouler 40 cigarettes. Mais quoi? L'argent était fait pour être dépensé. Il n'avait ni carte ni gouvernail, n'avait aucun port à rallier, alors autant aller à la dérive. C'était vivre un peu moins, et vivre faisait mal. Les jours s'égrenèrent. Il s'accordait 8 heures de sommeil par nuit. En attendant d'autres chèques, il mangeait dans des restaurants japonais où l'on servait des repas pour 10 cents. Il se remplumait, ses joues s'étoffaient. Fini le surmenage et les trop longues veilles. Il n'écrivait rien, ses livres restaient fermés. Il se promenait beaucoup, dans les collines notamment, et flânait dans les jardins publics. Il n'avait ni amis, ni connaissances, ni le désir de s'en faire. Il attendait l'inspiration, une impulsion quelconque, un coup du sort, pour redonner le branle à sa vie suspendue. Entre-temps, il continuait à végéter, sans but et désœuvré. Un jour, il fit un saut jusqu'à San Francisco pour revoir la vraie Fange. Mais au dernier moment, en montant l'escalier, il tourna les talons, redescendit et s'enfonça dans le ghetto populeux. Il n'avait pas le cœur à parler philosophie et pressa le pas, de peur d'être reconnu dans la rue par un membre du groupe. De temps en temps, il feuilletait les revues et les journaux pour savoir à quelle sauce on mangeait l'éphémère. Le poème avait fait un tabac, et quel tabac! Tout le monde l'avait lu, tout le monde en débattait. Les journaux locaux s'étaient saisis de la polémique et publiaient chaque jour de studieuses critiques, des éditoriaux facétieux et des lettres d'abonnés. Hélène Della Delmar, saluée en grande fanfare comme la plus grande poétesse des États-Unis, daignait à Brissenden le droit de siéger à côté d'elle sur le Parnasse et abreuvait le public de lettres ouvertes clamant, preuves à l'appui, qu'il n'était pas un poète. Dans son numéro suivant, le Parthénon se félicitait de la controverse qu'il avait suscitée, ironisait sur Sir John Value et exploitait la mort de Brissenden à des fins bassement commerciales. Un journal diffusé à 500 000 d'exemplaires publia un poème de circonstance d'Hélène Della Delmar dans lequel elle brocardait Brissenden. Elle en commit un second pour le parodier. Heureusement que Brissenden était mort, se dit Martin plus d'une fois. Il n'eût pas supporté de voir ce qu'il avait de plus précieux, de plus sacré, jeté en pâture à la foule qui les haïssait tant. Chaque jour, la vivisection de la beauté reprenait. Tous les nigauds du pays essayaient de se faire imprimer pour tremper leur petit égo rabougri dans la vague montante de Brissenden. Un journal annonçait « Nous avons reçu dernièrement une lettre d'un monsieur qui a écrit un poème de la même veine, mais bien meilleur. » Un autre, réprouvant la parodie d'Hélène Della Delmar, disait avec le plus grand sérieux « Mais il est évident que Miss Delmar a composé cette ode pour plaisanter et non avec le respect qu'une grande poétesse doit à un grand poète, peut-être le plus grand de tous. Que Miss Delmar soit jalouse ou non de l'auteur de l'éphémère, il est certain qu'elle est fascinée par son œuvre, comme des milliers d'autres, et que le jour viendra où elle essaiera d'écrire des vers semblables. » Des ministres du culte y allèrent de leur sermon contre l'éphémère. L'un d'eux, qui avait voulu prendre la défense de Brissenden, fut accusé d'hérésie. Le grand poème devint un sujet d'amusement. Chansonniers et caricaturistes s'en emparèrent, et il ne se passait pas une semaine sans qu'un hebdomadaire mondain rapportât quelques bonnes blagues à son propos. Depuis que Charley Frensham avait confié à Archie Jennings que 5 vers de l'éphémère pouvaient conduire un homme à battre un infirme et 5 de plus à l'envoyer au fond de la rivière. Martin ne riait pas, non plus qu'il ne grinçait des dents. Il ressentait seulement de la tristesse. Dans l'effondrement de son univers, où l'amour tenait la première place, l'effondrement de ses illusions sur le petit monde littéraire et le public était secondaire. Le jugement de Brissenden sur les revues se confirmait définitivement, il s'en rendait compte maintenant. Il lui avait fallu des années de futiles efforts pour le découvrir. Les revues étaient tout ce que Brissenden en avait dit, et pis encore. Tout cela était fini désormais. Au fond, c'était un soulagement. Il avait lancé son vaisseau vers une étoile et atterri dans un marais pestilentiel. Ses visions de Tahiti, la claire et douce Tahiti, étaient de plus en plus fréquentes. Il y avait aussi les toits Motu et les marquises. Souvent, il se voyait à bord d'une goélette ou d'un petit voilier, quittant Papeete à l'aube pour longer un chapelet d'îles jusqu'à Nuku'iwa et la baie de Taiohae, où Tamari tuerait un cochon pour fêter sa venue, tandis que ses filles, enguirlandées de fleurs, lui prendraient les mains en chantant, en riant et en le couronnant de leurs fleurs. Les mers du sud l'appelaient, et il savait que tôt ou tard, il répondrait à leur appel. En attendant, il musardait pour se reposer de sa longue traversée dans le royaume de la connaissance. Quand le chèque de $350 du Parthénon lui fut adressé, il l'envoya au notaire de la famille Brissenden contre un reçu, en y joignant une reconnaissance de dette pour les $100 que son ami lui avait donnés. Bientôt, Martin cessa de fréquenter les restaurants japonais. Au moment même où il abandonnait la lutte, le vent tournait. Mais il avait tourné trop tard. The Millennium lui envoya $300 pour l'aventure et il n'eut même pas un frisson en découvrant le chèque au fond de l'enveloppe. Le montant total de ses dettes, y compris les faramineux intérêts du prêteur sur gage, s'élevait à moins de $100. Quand il eut tout payé et honoré sa dette auprès de l'avocat de Brissenden, il lui en resta encore plus de 100 en poche. Il commanda un costume neuf au tailleur et prit ses repas dans les meilleurs cafés de la ville. Il continua à habiter sa petite chambre chez Maria, mais ses nouveaux vêtements lui valurent un regain de respect. Il n'entendit plus les gens du quartier le traiter de clochard et de vagabond, caché derrière des palissades ou des appentis. Wiki Wiki, son histoire hawaïenne, fut acheté $250 par le Warren's Monthly. Son essai, Le berceau de la beauté et La diseuse de bonne aventure, le poème qu'il avait écrit pour Marianne, furent acceptés respectivement par la Northern Review et le Macintosh Magazine. Les rédacteurs et les lecteurs étaient rentrés de vacances et les manuscrits sortaient des placards. Martin n'arrivait pas à comprendre quel étrange caprice les poussait tout à coup à accepter des textes qu'il lui avait refusés avec obstination pendant 2 ans. Aucun livre de lui n'avait été publié. Personne ne le connaissait en dehors d'Auckland, et à Auckland même, il avait une sinistre réputation d'agitateur socialiste. Ce soudain revirement était inexplicable. Une bizarrerie du destin, sans doute. Après avoir essuyé une série de refus auprès des magazines, il décida de suivre le conseil de Brissenden et envoya La honte du soleil à des éditeurs. Après plusieurs échecs, la Singletree Darnley and Company l'accepta en lui promettant une publication pour l'automne. Quand Martin demanda une avance sur ses droits d'auteur, ils lui répondirent que ce n'était pas dans les habitudes de la maison, que les livres de ce genre leur permettaient rarement de rentrer dans leurs frais et qu'ils doutaient d'en vendre 1000 exemplaires. Martin se demanda ce que l'ouvrage lui rapporterait dans ces conditions. À raison de 15% par exemplaire, vendu au prix d'$1, Cela faisait $150. À ce tarif-là, il était bien plus rentable de se spécialiser dans la littérature de fiction. L'aventure, un texte 4 fois moins long, lui avait rapporté 2 fois cette somme. L'entrefilet qu'il avait lu à ses débuts n'avait pas menti après tout. Les magazines de premier ordre payaient à l'acceptation et payaient bien, non pas 2, mais 4 cents le mot en ce qui concernait The Millennium. En outre, ils achetaient de la bonne littérature puisqu'ils achetaient la sienne, se dit-il avec un petit sourire. Il écrivit à Singletree Darnley & Company en leur proposant de leur céder ses droits sur la Honte du Soleil pour $100. Ils ne voulurent pas courir le risque. Tant pis, ils n'étaient pas à court d'argent de toute manière. Plusieurs de ses dernières histoires avaient été acceptées et payées. Débarrassé de ses dettes, il ouvrit un compte bancaire de plusieurs centaines de dollars. Trop tard, après avoir été rejeté par diverses revues, acheva ses pérégrinations à la Meredith Lowell Company. Martin n'avait pas oublié les $5 que lui avait donné Gertrude, ni sa promesse de les lui rendre au centuple. Il demanda donc une avance sur ses droits d'auteur de $500. À sa stupéfaction, la maison d'édition lui fit parvenir un chèque de ce montant, accompagné d'un contrat par retour du courrier. Il encaissa le chèque en pièces d'or de $5 et téléphona à Gertrude pour lui dire qu'il désirait la voir. Elle arriva chez lui tout essoufflée. Craignant quelques drames, elle avait emporté ses derniers dollars dans son sac à main. Persuadée que son frère en était réduit à la dernière extrémité, elle se jeta dans ses bras, en larmes, et lui tendit son sac sans un mot. « Je serais bien venu chez toi, dit-il, mais je ne voulais pas de dispute avec M. Higginbotham, et ça n'aurait pas manqué. » « Il finira par se calmer, assura-t-elle en se demandant dans quel pétrin s'était encore fourré Martin. « Mais il faudra d'abord que tu te ranges et que tu trouves de l'embauche. Bernard aime les honnêtes travailleurs, et cette histoire dans le journal l'a fichu en rogne. Je l'avais jamais vu râler comme ça. « Je n'ai pas l'intention de chercher de l'embauche, répondit-il avec un sourire. Tu peux le lui dire de ma part. Je n'en ai pas besoin et en voici la preuve. » Il déversa les 100 pièces d'or sur les genoux de sa sœur en un flot scintillant et sonore. « Tu te souviens de la pièce de $5 que tu m'as donnée le jour où je n'avais pas de quoi me payer le tram ? Eh bien, la voici, avec 99 petites sœurs, d'âges différents, mais toutes de la même taille. » Les craintes de Gertrude se transformèrent en une véritable panique. Ce n'était plus de l'appréhension, c'était une certitude. Ce n'était plus un soupçon, c'était une conviction. Elle leva des yeux horrifiés vers Martin et eut un mouvement de recul comme si ce flot d'or l'eût brûlé. « C'est à toi ? » fit-il en riant. Elle éclata en sanglots. « mon pauvre garçon, gémit-elle. » D'abord intrigué, Martin devina la cause de son désarroi et lui tendit la lettre de Meredith Lowell. Elle la parcourut en s'interrompant de temps à autre pour s'essuyer les yeux et demanda « Ça veut dire que c'est de l'argent honnête ? Plus honnête qu'un billet de loterie gagnant. C'est le fruit de mon travail. » Elle reprit un peu confiance et relut attentivement la lettre. Il fallut longtemps à Martin pour lui expliquer la nature de la transaction, et plus longtemps encore pour lui faire comprendre que cet argent était vraiment à elle et qu'il n'en avait pas besoin. « Je le mettrai à la banque pour toi, » dit-elle finalement. « Il n'en est pas question, cet argent t'appartient, fais-en ce que tu voudras. Si tu ne le prends pas, je le donnerai à Maria, elle saura bien le dépenser. Mais, si tu veux mon avis, engage une domestique et repose-toi une bonne fois. » « Quand je vais raconter ça à Bernard, » fit-elle en prenant congé. Martin tiqua, puis sourit. « C'est ça, raconte-lui. Et peut-être qu'il m'invitera de nouveau à dîner. « Oh oui, qu'il t'invitera, tu peux en être sûr !» s'exclama-t-elle, en l'embrassant de tout son cœur.